Bonjour mes frères et sœurs. Oui, c'est en son temps que Dieu fait certaines choses. Est-ce que ça ne serait pas le temps pour quelqu'un ce matin? Oui, d'entrer dans les vastes desseins. Le deuxième don spirituel qui a été donné, je suis convaincu que Dieu m'avait demandé d'insister sur cette parole justement. De découvrir ces vastes desseins. Est-ce que c'est une parole? Ou est-ce que c'est vraiment le désir de quelqu'un de ce matin de dire « Je veux découvrir le plan de Dieu dans ma vie ?» Alors, on va lire un texte. Alors, je vais faire quelque chose. Vous savez, mon souci, c'est qu'on respecte Dieu. Vous êtes d'accord? Je vais vous demander une chose. Ne pensez pas que c'est du folklore. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour lire un texte. Je le fais parce que je pense que c'est important qu'on réalise qu'une des choses les plus merveilleuses, c'est comme disait Geneviève dans sa prière, nous avons la Bible en français. C'est pas une grâce, hein? Et j'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît, ensemble, la parabole des talents. Matthieu, chapitre 25. Je le fais pour le respect de la parole. C'est pas du tout pour frimer. Vous le comprenez. Est-ce que c'est bien de lire la Bible? Matthieu, chapitre 25, verset 14. N'oubliez pas, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il en sera comme d'un homme. Il en sera, donc je ne veux pas prêcher au pasteur là, mais c'est une prophétie ça aussi. Ça sera comme ça que ça se passera. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire une autre lecture. Mais je tenais à ce que de temps en temps... J'y tiens. Croyez-moi, ce n'est pas du cinéma. C'est pour que les chrétiens retrouvent le respect de la parole. Vous le comprenez, mes frères et sœurs? Ça vient de Dieu. Tout ce qui est écrit, ça sort de la bouche de Dieu. C'est écrit quelque part? Tite chapitre 3 verset 1, c'est une épître où Paul parle à un pasteur et il lui demande de faire certaines choses, de dire certaines choses. Il le dit ailleurs, dis ceci, dis cela. Et entre autres, c'est par rapport aux œuvres. Dans nos mouvements évangéliques, on a tellement pris le contre-pied d'une certaine dénomination qu'on ne veut plus parler du salut par les œuvres. Et c'est vrai, on est sauvé par la grâce. Mais je peux vous dire que si un chrétien ne fait pas d'œuvre, croyez-moi, il y a un danger. Tite chapitre 3, verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir d'être prêt à toute bonne œuvre. Amen. Verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et encore au verset 14, c'est un impératif. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Vous avez vu que c'est un impératif. Il faut. Alors, on va revenir là-dessus, je vais vous l'expliquer. La troisième lecture, on va en voir plusieurs lectures. Je vous encourage à les noter ces textes, comme je vous l'ai demandé dimanche dernier, pour que vous puissiez, dans votre culte personnel, poursuivre ce partage, et certainement que nous puissions arriver à faire ce que Dieu dit. Oui, entrer dans les vastes desseins, ce n'est pas un chant, ça doit se concrétiser. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, lorsque Jésus enseigne que nous devons nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire nous bénir, nous servir, nous aider les uns les autres, il conclut avec ce verset 17, qui est vraiment le verset qui devrait être médité régulièrement. Jean chapitre 13, verset 17, Jésus parle de la connaissance et de la mise en pratique. En une phrase, c'est incroyable comment une prédication peut être faite. Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Alléluia, donc vous les savez. Mais vous avez vu la virgule « Pourvu » que vous les pratiquiez. Des fois, les évangélistes disent « Venez à Jésus et vous serez heureux. » C'est pas vrai. Bon, bien sûr, je synthétise. Il y a un évangéliste, je fais gaffe. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Quand on vient à Jésus, il faut faire ce qu'il demande. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux. C'est un scoop, vous le savez. Il y a plein de chrétiens qui ne sont pas heureux. Eh bien, on l'a lu. Les bonnes œuvres, voilà ce qui est bon. Il y a des gens, oh, je voudrais faire ce qui est bon. Eh bien, ce qui est bon, c'est faire les œuvres. Alors c'est vrai que le mouvement, notre mouvement, a pris le contre-pied d'une certaine dénomination. Et ce n'était pas bien du tout. À tel point même que Luther, lorsqu'il a mis en place le protestantisme, a pensé que l'épître de Jacques n'était pas inspiré. Pourtant, Luther, c'était un moine qui s'est vraiment converti et qui a mené le protestantisme avec Calvin. À tel point qu'il a dit que l'épître de Jacques... Pourquoi ? Parce que l'épître de Jacques parle la foi avec les œuvres. Que la foi sans les œuvres, elle est morte. Que la foi sans les œuvres, elle est inutile. Et moi, je vous avoue, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Moi, franchement, je m'inquiète. Enfin, c'est une façon de parler. Pour certains chrétiens. Pas une question d'être présent qu'au culte. Le premier n'est pas là. Des fois, on insiste, on met la pression sur les gens. D'ailleurs, il faut être là à toutes les réunions. Est-ce qu'il faut être là à toutes les réunions? Est-ce qu'on peut venir à toutes les réunions? Est-ce que tout le monde peut venir à toutes les réunions? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est la contrainte. Mais il y a quand même la volonté de Dieu. Je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors moi j'ai des versets en pagaille que j'ai marqués sur mon... J'aimerais qu'on les lise, qu'on en lise certains, par rapport à l'importance qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous le croyez ça ou vous ne le croyez pas? Est-ce que vous y pensez des fois? Il nous faudra tout, il y a plein de versets. J'en ai marqué une dizaine. On les lit ou non? On va lire un ou deux. Hébreux chapitre 4, verset 13. Parce que vous savez, ce qui est important, ce n'est pas trop ce que je dis. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Oui ou non? Hébreux chapitre 4, verset 13. Oui, ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Et il faut que ce qui est prêché soit conforme à ce qui est écrit. Hébreux chapitre 4, verset 12, 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous êtes d'accord? On peut prendre, parce qu'on l'a vu dans la semaine, tiens. 1 Corinthiens 3:8. Il y en a plein. Si vous voulez, je vous les donnerai. Je vais vous les donner d'ailleurs pour ceux qui prennent des notes. 1 Corinthiens chapitre 3. Je prends le verset 8. Pourquoi? Parce que c'est la fin du verset et explique bien que c'est personnel. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. selon son propre temps. Vous voyez, il y a une récompense, il y a une rétribution, on va le voir, il y a une rétribution bonne et il y a une mauvaise rétribution. Il vaut mieux être du bon côté. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et il y a donc une perception du travail. Il y a un travail. On travaille à notre salut, mais on ne travaille pas qu'à notre salut, on travaille aussi au salut des autres. On travaille pour... parce qu'il y a un plan. Dieu nous a sauvés. Pourquoi il ne nous a pas pris de suite? Est-ce qu'il aurait pu nous sauver? Dès que quelqu'un est sauvé, 24 heures après, il part. Est-ce que ça aurait pu être... oui, non. Mais le Seigneur, je le rappelle, le seul aspect que les gens voient, ils ne voient pas Jésus. Jésus est au ciel. Le Saint-Esprit, il est esprit. Donc, le seul instrument que le monde a, c'est les chrétiens, pour voir Dieu. Donc, on a intérêt à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour toi, Seigneur? Et le deuxième don spirituel, ce n'est pas pour revenir sur le don, mais je vous assure, j'avais à cœur depuis mardi, depuis mercredi ou jeudi, de prendre cette partie de ce chant sur les vastes desseins. Mes frères et sœurs, je vous assure que c'est vrai devant Dieu. Je voulais prendre cette parole de ce chant pour que nous comprenions bien. Donc, en attendant, on va lire notre verset par rapport au fait, à l'importance de comprendre qu'on doit encourager. Est-ce que je dois vous encourager? Est-ce que je peux vous contraindre? Non, regardez, 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Regardez bien, parce que tout est là, la différence entre une église et une secte. Dans une église, on encourage. Dans une secte, on contraint les gens. Vous savez, une église, si c'est une église ou si c'est une secte, quelle que soit la dénomination. 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, etc. Donc, on ne doit pas contraindre les gens. On ne doit pas les contraindre. Mais on peut les encourager. Vous comprenez? Alors c'est vite fait de dire, oui, on nous oblige. Non, on n'oblige personne. Jésus, je l'ai dit dimanche dernier pour conclure la prédication, Jésus n'a jamais obligé quelqu'un. Même les anges qui ont voulu se désolidariser de Dieu, l'ont fait et ont suivi Lucifer, qui lui aussi était un ange puissant qui a choisi le mal. Donc toutes les créatures sont libres. Et hors de question de contraindre quelqu'un et fait ceci, et il faut venir à toutes les réunions, et tatati, ça ne sert à rien. Mais entre ça et le fait d'être négligent, être paresseux, mes frères et sœurs, il faudrait quand même qu'on réfléchisse. Parce que le verdict dans cette parabole, cette prophétie, parce que si c'est tourné en parabole, c'est quand même une prophétie, je ne sais pas comment ça se passera, mais il y a des chrétiens qui vont s'entendre dire « t'as été paresseux et t'as été inutile ». Ils disent « bon, mais c'est pas grave, t'es quand même sauvé ». Non, ça prouve quelque chose. Le verdict, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Bon, après on donnera celui qui a un talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Bon, à la limite on peut dire, c'est pas grave, j'ai perdu mon talent, mais c'est pas grave, j'ai pas perdu le salut. Mais là, le problème, il est tel qu'il y a des chrétiens qui perdent le salut. On ne perd pas le salut parce qu'on est charnel au début. J'en ai parlé mardi dans l'étude sur le comportement du chrétien. Mais lisez et vous verrez qu'on peut le perdre petit à petit parce que quand on est charnel, on s'éloigne de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, on perd la foi. Quand on perd la foi, il n'y a pas beaucoup de pas à faire pour perdre le salut. Et le verdict, il est là, ce n'est pas moi qui le donne, c'est Jésus. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est une façon de parler. Jésus, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Écoutez. Si vous n'êtes pas converti, ça c'est un autre problème. Un chrétien converti, il sait que Jésus a dit ce qu'il a dit. C'est comme les gens qui disent, oui, j'effacerai son nom du livre de vie. C'est pas vrai, c'est pas possible, Dieu ne va pas effacer le nom de... Écoutez-moi, si c'est écrit, c'est que ça risque de se passer. Pour certains. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent plus les impératifs. Vous voyez, il faut, je suis sûr qu'il y a des pasteurs qui n'osent même plus prêcher sur les impératifs parce qu'ils ont la moitié de l'église qui vont partir. Il y a un pasteur qui m'a invité à faire un séminaire, c'est une parenthèse. Il y a un pasteur qui n'est pas des assemblées de Dieu, qui m'écoute sur Internet. Et j'avais fait une prédication il y a quelques mois sur l'apostasie. Et lui, il m'a dit, écoutez, monsieur Gouge, je peux reprendre votre prédication, je la fais comme vous voulez. Oui, faites-la, faites attention quand même. La moitié de l'église est partie. Il m'a dit, monsieur Gouin, est-ce que vous pouvez faire un séminaire au pasteur de mon mouvement? C'est un responsable du mouvement en plus. Pas d'une autre, hein, d'un autre. Il y a des gens qui ne supportent plus les impératifs. Mais quand Dieu dit il faut, il vaudrait mieux peut-être réfléchir. Et quand Jésus dit qu'on peut perdre le salut parce qu'on ne fait pas valoir le talent que Dieu nous a donné, et je suis persuadé que plusieurs dans l'Église, vous ne faites pas valoir le talent. Il y a des frères et sœurs qui ont reçu le devoir ou le privilège ou je ne sais rien, ce que vous voulez, ou la responsabilité d'exercer un don spirituel, vous ne le faites pas. Vous avez peur de vous tromper. Et vous savez que c'est vrai. Oui ou non? Répondez. Il y en a plusieurs, vous devriez exercer le don spirituel. Vous avez peur de vous tromper, alors vous dites, comme j'ai peur, ben je ne le fais pas. Monsieur Gouy va me gronder si je... Mais non, il ne va pas vous gronder. Si vous vous trompez, bien sûr que si vous dites dans une prophétie que Jésus est mort à Mexico, c'est sûr qu'on va vous reprendre. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mes frères et sœurs, il faut que ce que vous dites soit spirituel. Mais faites valoir le talent que vous avez donné. Parce que je sais que ici dans l'Assemblée, plusieurs frères et surtout des sœurs n'exercent pas le don que Dieu leur a confié. C'est pas grave si vous vous trompez. On se corrigera, on le dira, c'est pas grave. Si moi j'ai fait une erreur, ça m'est arrivé deux ou trois fois de critiquer par exemple. Et je me souviens, ma femme, monsieur Olé sont venus me voir, monsieur Roux, vous n'avez pas critiqué du haut de l'estrade, les églises, etc. Je ne l'ai plus fait. Mais voilà, je n'ai pas tout arrêté. J'ai pas arrêté de prêcher parce que j'ai fait une erreur en prêchant. Et personne ne m'a jugé. Vous avez continué à m'aider. La paresse, elle est terrible. On relit le verdict, on le relit quand même. Voilà. Je vois qu'il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. Il y a des places devant. Matthieu chapitre 25, on lit quand même, versets 28, 29 et 30. Ce sont des choses archi sérieuses. Archi sérieuses. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Est-ce que ça peut arriver, ça, dans une église, que Dieu donne un talent à celui qui en a déjà un? Ben oui. Quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ben, si ça s'arrêtait là, bon, on dirait, bon, c'est pas grave, j'ai perdu la possibilité de servir Dieu, mais ça s'arrête pas là. C'est ça qui était sérieux. Ça s'arrête pas là. Il y a cette dernière parole du Seigneur, de Jésus. Le serviteur inutile. Jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors moi, mon devoir, c'est de vous dire, mais est-ce que vous êtes utile? Est-ce que nous sommes utiles? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plein de choses. Il faut que je... Moi, je l'ai fait, ça. Pendant des années, j'étais dans l'activisme, je travaillais 16 heures par jour parce que le pasteur qui me formait, il fallait faire comme ça du lundi matin au dimanche soir. C'était comme ça. Mais j'obéissais. Le pasteur me disait, fais ça, je faisais ça. Le dimanche soir, va visiter Madame Intel. J'allais, je travaillais. Ma femme m'a dit, j'ai l'impression d'être une veuve. Notre foyer, à un moment donné, je ne sais pas si ça aurait pas pu... C'est pas ça. Ça, c'est ridicule. C'est pas l'activisme, mais faire ce que Dieu me demande. Alors c'est vrai qu'il faut avoir un peu de crainte. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il est certain qu'un chrétien, il doit avoir ce respect. Tiens, ce matin, tu m'interpelles, peut-être ça fait 5 fois que M. Gouy prêche là-dessus, plutôt que de dire oui, il répète toujours pareil. Dites-vous, peut-être que Dieu est en train de me dire pour la 5e fois, qu'il faut que je m'applique à découvrir les vastes desseins. Ces vastes desseins, où sont ces vastes desseins? Ils y sont, vous voyez? Ah, monsieur Puyet, vous voyez? J'aurai la grâce, mais franchement, vous l'avez chanté? J'aurai la grâce, c'est une grâce! C'est une grâce! C'est pas une corvée de chercher encore ces vastes. Cette parole, je l'ai toute la semaine dans le cœur. Et en plus, franchement, c'est affirmé par un don spirituel. La joie, c'est une grâce. Bien sûr qu'il y a une vie de foi. Bien sûr que tout ça, ça se fait par le Saint-Esprit. Mais cette parabole, elle doit m'amener à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne, cette parabole? Eh bien, que je dois dépendre de Dieu. Je dois dépendre du Seigneur. Est-ce que je dépends de Dieu? C'est écrit que votre vie ne vous appartient pas. C'est écrit ça dans la Bible, dans les Corinthiens, que votre vie et votre corps ne vous appartiennent pas, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, on chante des trucs, c'est bon, c'est pas grave, Dieu le sait. C'est pas grave. Mais est-ce que notre vie nous appartient, à nous, ou est-ce qu'elle appartient vraiment au Seigneur? Donc ce texte nous parle de dépendance, est-ce que je dépends vraiment de Jésus? Ce texte nous parle des œuvres, de faire l'œuvre de Dieu, d'une responsabilité. On doit avoir cette responsabilité. Et dernièrement, de la rétribution. Ce texte, voilà, si on devait le résumer en quatre, c'est ça. Mes frères et sœurs, la responsabilité. Alors, je dois recevoir une direction du Saint-Esprit. Je veux que tu affirmes ces choses, dit-il, on l'a lu. Je veux. Donc, c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons réenseignés. Je le répète, parce que on me fait dire tellement de choses qui ne sont pas vraies. Bon, mais ça, ce n'est pas grave. Mais quand même, il faut le dire. Je veux que tu affirmes ces choses, que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Alors, il y a plein de versets où il est dit qu'il nous a rendus capables. Moi, je crois que Dieu nous rend capables. Il nous rend capables. Dès qu'on se met à faire quelque chose, le Seigneur nous qualifie. Bien sûr, tu n'as compris rien. C'est sûr que ça ne va pas avancer beaucoup. Dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. On reconnaît quelqu'un, un chrétien, à ça. Est-ce que j'accepte, est-ce que je supporte la saine doctrine ou pas? Si vous ne supportez pas la prédication, ce n'est pas bon signe. Si vous dites, encore, si vous dites oui, d'accord, mais on ne perd pas le salut parce qu'on est charnel. Tiens, c'est une question, est-ce qu'on peut perdre le salut? J'y reviens, parce que je sais que quelqu'un n'a pas compris tout à l'heure. Oui, monsieur Gau, Paul a dit que ceux qui construisaient avec du foin et du bois et de chaume, ils seraient sauvés comme au travers du feu et ne perdraient pas leur récompense. Mais lisez les chapitres qui suivent. Et vous allez voir que ces mêmes chrétiens, ils n'ont pas avancé avec Dieu. Quand on est charnel, au début bien sûr que ce n'est pas grave. Si ça fait 6 mois que vous êtes charnel et que vous vous ressaisissiez, non, je sais, il faut... C'est pas ça qui va vous faire perdre le salut. Mais si vous restez charnel, vous lirez les Corinthiens. Vous verrez la suite des chapitres. Et vous verrez que les chrétiens charnels, ils finissent par perdre le salut. Quand Jésus dit « il faut », c'est une bénédiction. Quand Dieu dit « il faut », laissez-moi vous dire, rassurez-vous, c'est une bénédiction, il faut. Vous entendez? C'est une grâce de connaître, Seigneur, ce que tu me demandes. Mais peut-être c'est de m'occuper de mes enfants. Vous savez, moi, dimanche après-midi, moi, je me suis réjoui à ces baptêmes. Ça fait 17 ans que je suis là. C'était la première fois que j'ai vu autant de familles amener leurs enfants. Franchement, ça m'a réjoui. Tous ces gosses qui étaient là, les yeux écarquillés, qui ont regardé quand on a présenté le petit Benjamin, qui ont écouté ces baptêmes. Ils étaient là, tous avec ces yeux ronds, ils chantaient. Je me disais, mais l'Évangile, vous ne croyez pas que ça serait déjà une bénédiction si on amenait tous nos enfants à écouter l'Évangile? Oh, moi, je n'arrive pas à amener quelqu'un au Seigneur. C'est vrai, je sais. Mais nos enfants, tiens, j'ai 3 enfants, 4 enfants. Est-ce que ce ne serait pas bien que de temps en temps, ils viennent écouter une réunion d'évangélisation? Oh, ils sont crevés le dimanche après-midi. Ils sont crevés. C'est bizarre parce que la veille, jusqu'à minuit, on avait un anniversaire. On est rentré à minuit, bon, ils étaient crevés, mais c'est pas grave. Ils dormiront demain après-midi. Alors moi, je suis pas contre les anniversaires. Je bénis Dieu, moi, quand on a des amis, quand on est invité. Est-ce c'est une bénédiction d'avoir des amis, d'être invité? Mais c'est évident. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on est capable de faire 100 km pour aller à l'anniversaire d'un ami, de passer la soirée jusqu'à minuit, de ramener les gosses tard. Et on n'est pas, j'allais dire un mot vulgaire, j'ai presque envie de le dire. On n'est pas capable de prendre une heure pour que nos enfants entendent le message de la croix. Vous allez me dire, mais là, si tu es... Non, écoutez-moi mes frères et sœurs. C'est pour qu'on comprenne l'aveuglement dans lequel beaucoup de chrétiens sont plongés. Que vous n'ameniez pas votre chef de service parce que vous n'arriviez pas. Mais votre fils... Vos enfants, vous les aimez vos enfants? Ou ils sont mieux devant la PlayStation toute l'après-midi dans leur chambre? Et c'est vrai qu'il y a un aveuglement si je suis capable de faire deux heures de voiture pour amener mon gosse au cheval, et c'est bien. Moi, si vous me dites mon fils il fait de l'équitation, ben c'est bien. Moi, j'aurais aimé pouvoir payer de l'équitation à mes enfants. Mais non, il se serait cassé une jambe. Mais franchement, est-ce que c'est une grâce quand on peut faire des activités à nos enfants? Mais bien sûr, c'est une grâce. Mais une heure par semaine, moi je crois, mais moi je vous le dis, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, ça ne me vient pas à l'esprit là. J'ai réfléchi. si je devais le dire ou pas. C'est pour le salut de vos enfants. Nos réunions d'évangélisation, moi je bénis Dieu. Dimanche, je me suis réjoui. C'était le meilleur dimanche de l'année que j'ai eu, parce que ce qu'on a vécu dimanche après-midi, est-ce qu'on pourrait le vivre plusieurs fois, même s'il n'y a pas des baptêmes? Eh oui, mes enfants quand même. Mes enfants. Nos enfants. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Mais les chrétiens, non, on ne peut pas. On est crevés, on n'en peut plus. Mes frères et sœurs, moi je vais vous dire, Dieu vous renouvellera quand vous viendrez dans sa maison. Et vous savez que c'est vrai, vous le savez. Il faut, non pas sous la contrainte, mais mes frères et sœurs, il faut que chacun d'entre nous, nous fassions ce que Dieu nous demande. Quand Jésus dit, mais vous êtes heureux si vous faites ces choses, moi hier après-midi, j'ai eu une journée compliquée. Mais je sais qu'il fallait que je le fasse. Mais c'était ce que Dieu me demandait. Je le sais. Et ça m'a réjoui de le faire, même si ça me fatigue aussi. Mes frères et sœurs, Jésus parle d'une pleine récompense. On va lire ce verset dans 2 Jean. Vous savez, il y en a des versets sur le travail, les récompenses. C'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est très sérieux. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas sérieux avec ces choses. Vous savez, dans l'Église catholique, je ne vais pas critiquer, je n'aurais pas dû dire le nom, mais ce n'est pas grave. Il y a un clergé. Et tout repose sur le clergé. Vous êtes d'accord? C'est le clergé qui fait tout, qui commande, qui dirige, voilà. Et les chrétiens, ils sont là pour observer si le clergé fait son travail encore. Mais dans le corps de Christ, dans l'Église, il n'y a pas ça. On est un corps et chacun doit trouver sa place. Et je pense que le clergé a... Vous savez, ça a créé une espèce d'atavisme en France. Une hérédité. Et il ne faut pas que ça rentre dans la nôtre. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Vous entendez? Chacun a sa place. Regardez dans la deuxième épître de Jean, le verset 8. 2 Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, une fois de plus, votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. C'est important de faire attention. J'en parlais mardi, je le répète parce que mardi, vous avez remarqué, ça fait plusieurs fois qu'on fait une étude, on va continuer certainement toute l'année sur le comportement du chrétien. Paul dit, nous on a la pensée de Dieu. Les Corinthiens, à cause de leur choix de redevenir charnels, sont sortis de la pensée de Dieu. Et ça va vite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La pensée de Christ, quand vous connaissez la Bible, vous la découvrez. Et quand on lit ces choses, ça nous apprend à comprendre la pensée de Christ. Il y a un propre travail. Et ça, c'est pas... Moi, je peux vous aider. Mais c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un chante bien. Oh, que tu chantes bien. Oh, tu devrais aller à la chorale. Voilà. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ça, forcément? Est-ce que parce que vous chantez bien, il vous faut automatiquement aller à la chorale? Mais non. C'est pas parce que vous êtes un bon comptable que vous devez être le trésorier de l'Église, etc. Ça, c'est charnel. Ça peut se présenter que quelqu'un chante bien, qu'il ait à cœur. Mais mes frères et sœurs, toutes ces choses sont archi sérieuses. Parce qu'il... Je n'ai pas pris les versets, je les ai. Je peux vous les donner tout à l'heure. Il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, devant le tribunal de Dieu, devant le Seigneur. Moi, je n'ai pas envie qu'un de vous me dise « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Qu'il fallait faire valoir un talent, ou deux, ou trois. Je pense qu'on en a au moins un. On en a au moins un. Jésus l'a dit... Au pasteur, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il l'a dit Jésus. C'est une des dernières paroles qu'il a dites au pasteur avant de remonter au ciel. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je ne vous dis pas ça pour que vous ameniez vos enfants aux réunions, pour qu'il y ait plus de monde. Mais tout ça, franchement, les pasteurs qui font cette espèce de... Enfin, c'est grave, parce qu'un esprit de contrôle, moi, je pense que ça vient du diable. Je le pense vraiment, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais je pense que ça, quand un homme de Dieu essaie de contrôler tout, je pense que ça vient du diable. Je le pense. Mais de là à laisser faire n'importe quoi, et puis à déresponsabiliser les gens, et à mener les églises à ressembler à ce qui se passe dans le clergé, non, ce n'est pas possible. Il y a des choses que Dieu veut. Alors c'est vrai que tout... Il nous éprouve aussi. Est-ce que Dieu peut nous éprouver quand on le sert? Vous savez, moi, hier, je pensais à... Parce que Mme Bourdelle est venue nous voir par rapport au ménage, tout ça. Et au début, quand on s'est converti, ben, nous, on faisait tout ce qui se trouvait à faire. Je voyais le pasteur qui rangeait les chaises. Je dis, papa, c'est pas vous à le faire. Et moi, je me suis dit, peut-être que toute ta vie... Je le pensais, je blague pas. Je me suis dit, peut-être que toute ta vie, ben, tu vas ranger les chaises dans l'église pour que l'église soit propre. J'avais dit à M. Roussel, écoutez, c'est pas vous à ranger les chaises. Moi, je vais le faire. Et puis, on priait, ma femme. Et puis, il y avait le ménage. Je voudrais encourager ceux qui font le ménage. Avec ma femme, quand on allait faire le ménage, on arrivait demi-heure avant. Et souvent, les autres arrivaient demi-heure après. Et la première fois, moi, ça m'a irrité. J'ai quand même les chrétiens. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave. On va pas s'irriter. On va le faire de tout notre cœur. Et souvent, on était tous les deux. Que tous les deux. On chantait parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alors, on avait le balai, on chantait. C'est vrai. Et je pense que Dieu nous éprouve quand on sert Dieu. On est toujours éprouvé. Toujours. Et où on s'irrite, où on accepte. Mais si vous faites le ménage, vous pouvez peut-être un jour vous retrouver tout seul. Mais c'est bien. Enfin non, je ne dis pas ça pour ceux qui sont feignants. Je dis ça. Non, mais est-ce que vous avez compris ma pensée? Parce que vous savez, on peut perdre son travail. Vous l'avez lu avec moi? Prenez garde. Comment on perd le fruit du travail? Bon, on va le voir. C'est la conclusion. Mais quand il est dit, prenez garde à vous-même, que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, ça serait quand même dommage. Quelqu'un me dit, moi, ça me dégage, je m'en fiche, moi, sachez que j'aille au ciel. Oui, vous pouvez tout perdre. Et là, on n'est plus dans... On peut pas rire avec ça. On peut rire avec plein de trucs, mais pas avec le salut de votre âme. Moi, je dois veiller sur votre âme et je dois vous aider à faire valoir le talent. C'est Pierre qui dit, mais mettez au service de tous le don que vous avez reçu. Mais mon souci, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Parce que moi, je vous dis que plusieurs d'entre vous, vous êtes en danger. Alors, c'est bien de chanter... De mon Seigneur, j'aurai la grâce de marcher encore dans ces vastes desseins. Merci, Monsieur Puet. Mais franchement, c'est quand même... Avouez que c'est quand même... Il y en a un qui doit rire. Quand on chante des paroles qui ont été prophétisées, que j'avais à cœur de partager, qui sont là, j'aurai la grâce de chercher encore... Oui, je le répète, c'est une grâce de marcher dans ces vastes desseins. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole par rapport aux choses que tu donnes? Que tiens, tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Est-ce que c'est écrit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs? Pourquoi Dieu répandrait-il son amour dans notre cœur? Pour le garder là, confiné à l'intérieur, je reste à la maison toute la journée, je ne fous rien. Voilà, je... C'est pourquoi Dieu nous donnerait-il son amour? Mais pour qu'on le déverse sur les autres. Déjà peut-être dans la maison. Oui ou non? Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Mais c'est clair, ce n'est pas pour qu'il soit confiné là-dedans, c'est pour qu'il s'extériorise. Mais si je ne le fais pas, eh bien je vais être frustré. Oui, je serai malheureux. Je le sais, mais je ne le vis pas, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors Seigneur, oui, eh bien, je veux aimer les frères. Je veux aimer les frères. Est-ce que vous aimez les frères, les sœurs de l'Église? Celui qui est à côté de vous, vous l'aimez? Vous l'aimez celui qui est à côté de vous? Celui qui en passe de vous, monsieur de Dieu, vous l'aimez? Est-ce que vous aimez votre prochain? Jonathan, est-ce que tu aimes la fille qui est à côté de... Ouais. Mais est-ce qu'on se le prouve? Est-ce que je prouve à ma femme que je l'aime? Réponds. Est-ce que je prouve à mes enfants que je les aime? Non mais c'est ça l'honnêteté. Est-ce que je prouve à l'église dans laquelle je travaille que je l'aime? Moi, vous me le prouvez. Il y a plein de gens. Ouais, franchement, moi, je vous le dis franchement. Moi, je suis comblé avec vous. Vraiment, vous me manifestez de l'amour. Et ça me touche vraiment. Vraiment, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous me manifestez. Moi, ça, franchement, je vous le dis là dans la prédication, mais ça me touche vraiment. Parce que ce n'est pas une personne ou deux, c'est plein. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Cet amour, il doit sortir, il doit s'extérioriser. Eh bien oui, je vais commencer à m'occuper de mes gosses. Je vais m'occuper de mes enfants. Seigneur, tu as répandu mon amour, je fais la tête toute la journée. Eh bien oui, mais c'est normal. Ne vous étonnez pas si vous gardez tout ce que Dieu vous a donné, que vous ne l'extériorisez pas. La Bible dit qu'il y a de la joie à donner, plus qu'à recevoir. Alors, mes frères et sœurs, Dieu va me demander des comptes. Pourquoi Dieu va me demander des comptes? Tiens donc. Pourquoi Dieu va me demander des comptes? Sur quel sujet? Bon, par exemple, sur l'amour. Je viens de parler de l'amour. Est-ce que Dieu peut me redemander des comptes sur la façon dont j'ai aimé? Oui. Oui, parce que c'est évident. Sur la foi, est-ce que Dieu peut me demander des comptes par rapport à la façon dont j'ai grandi dans la foi? Oui. Une chose sur laquelle Dieu nous demandera des comptes, ça c'est évident, c'est sur la prière. Ma maison est une maison de prière. Mes frères et sœurs, sachez-le, quand nous passerons devant Dieu, Dieu nous demandera des comptes sur la prière. Et ne faites pas ce que les gens me disent, « Oh, j'ai pas le temps de prier ». Vous le direz au Seigneur. Vous le lui direz à lui. Ne me le dites plus à moi. Ça ne sert à rien. Si, à vous endurcir un peu plus. Vous allez me dire, mais moi je suis un homme d'affaires, j'ai qu'un quart d'heure. Eh bien, ce quart d'heure, utilisez-le. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit un homme d'affaires, qui soit vraiment pris par son boulot, qu'il n'ait qu'un quart d'heure par jour? Est-ce que ça peut arriver? Moi je le pense. Bien sûr que moi je peux prendre 2 heures, 3 heures à prier. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Alors vous qui êtes peut-être un homme d'affaires, mais vous n'avez qu'un quart d'heure. Mais bon sang de bon sang, prenez-le ce quart d'heure et utilisez-le. Et vous verrez combien peut-être au bout de quelques mois, ce quart d'heure va se transformer en 20 minutes. Mais ce sera une grâce. Commençons par le début. Dans le monde, on le fait. On ne va pas dire à quelqu'un, allez, il te faut faire 42 bornes si tu veux être marathonien. Il y a combien d'années que tu n'as pas couru? J'ai jamais couru. À partir de demain, tu fais 42 bornes par jour. On risque un peu de décourager. Mais commençons par le début, soyons intelligents. Dans le monde, ils ont de la sagesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, dans le royaume de Dieu, demander un peu de sagesse? Oui, Dieu nous demandera des comptes. Tu as été fidèle un peu de choses. Un peu de choses, ça fait 50 ans que je suis chrétien, 50 ans que je donne ma dîme, ça fait 50 ans que je visite des malades. Et toi, Seigneur, tu dis à celui qui a reçu les saints talents, tu as été fidèle un peu de choses? Un peu de choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, c'est peu. C'est peu pour deux choses. La première, que si on fait quelque chose, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de le faire. Vous êtes d'accord? Bon. Mais la deuxième chose, écoutez bien, c'est que je tiens ça de tous les hommes de Dieu. Je le pense vraiment, mais je l'ai vérifié par rapport à tous les hommes de Dieu, enfin, ceux que je considère comme des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, vraiment, disent que notre responsabilité dans le ciel, dans le royaume de Dieu, dépendra de notre fidélité sur la terre, de ce qu'on aura fait sur la terre. Et quand Jésus dit, dans une autre parabole, pour bien expliquer ce que je vais vous dire, tu as été fidèle à un peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes, de 5 villes. Vous croyez que c'est vrai ça, que dans le royaume de Dieu, vous ne savez pas trop comment ça sera, moi non plus, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le millénium, mais même le royaume éternel. Oui, c'est peu de choses d'avoir été fidèle 50 ans. Si on a été fidèle 50 ans, mais qu'on a été fidèle, vraiment, et qu'on a fait les choses de tout son cœur, dans le ciel, on va avoir des surprises, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que j'ai parlé de deux sortes de rétributions. Mais mes frères et sœurs, c'est écrit, tu as été fidèle, reçois le gouvernement de 10 villes. Alors on ne fait pas ça. Est-ce que vous voulez gouverner 10 villes dans le royaume éternel? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Non, mais c'est écrit. Alors il faut pas le faire, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire pour ça. Parce que si on le fait pour le faire, on risque de perdre sa récompense aussi. Mais on doit avoir la joie de dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vraiment vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que... Je vous dis, si vous êtes sérieux, pas que vous vous preniez au sérieux, si vous êtes sérieux, le Seigneur vous mettra à cœur quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur, ça peut être le ménage. Est-ce que la prédication, c'est plus important que le ménage? Au niveau des récompenses, moi j'ai passé plusieurs heures à préparer un sermon. Bon, pour préparer le balai et la serpillière, ça demande moins de préparation, j'avoue. Mais au niveau de la récompense, moi je pense qu'elle sera pareille. Parce que la personne, elle fait ce que Dieu lui demande. Vous savez, les membres, vous voyez mon front, mon nez, mais vous ne voyez pas ma rate, ma bile, mon foie, etc. Mais c'est pareil, il y a des choses qu'on ne voit pas dans le corps. Vous qui faites le ménage, on ne vous voit peut-être pas. Ce n'est pas grave. Dieu vous voit. Il y a une sœur dans l'église, je suis sûr que presque personne ne le sait. Écoutez bien, ça fait 17 ans que je suis là. Ça fait 17 ans que toutes les semaines, elle va visiter 3 personnes. Elle le fait, c'est ce que Dieu lui demande. J'ai rarement vu d'ailleurs une femme aussi heureuse. Personne ne le sait. Personne, à part celles qui sont visitées. Moi, ça me plaît. Elle fait ce que Dieu lui demande. Elle a son travail, elle a un mari converti, elle fait ce qu'elle a à faire. Des fois, elle passe des bonnes semaines, des fois des mauvaises. C'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est d'être fidèle. Vous savez, des fois, t'as passé un mois de congé, ah ouais, c'était génial, on a été là-bas, on s'est éclaté, c'était génial, bon, c'est bien. Mais moi, je vais vous dire, est-ce que vous avez été fidèle pendant les congés? Voilà, ça, c'est mon devoir. Est-ce que vous avez été spirituel? Est-ce que ces choses-là vous préoccupent vraiment? Qu'est-ce que Dieu va me demander? Je vais passer devant lui. Vous avez vu, le méchant serviteur, c'est Jésus qui parle, tout est intelligent. Le méchant serviteur, il commence à discuter. Vous savez, quand il passe devant le maître, oui, il commence à dire, ah, Seigneur, je savais que tu es... En plus, il fait une parabole. C'est quand même bon, c'est quand même expliqué. Il sait discuter, le gars. Il y a des gens qui savent parler. Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes ou tu n'as pas vanné, ou semé, que tu amasses ou tu n'as pas vanné, etc., etc. Ils discutent. L'enseignement de la parabole, c'est qu'on voit le gars qui, il a été honnête, ça, il a été honnête, il n'a pas utilisé le talent pour lui, il l'a enterré. Donc, on peut dire, moi, je suis honnête. Mais l'honnêteté, ça, il n'y a pas que l'honnêteté. Il l'a enterré, est-ce qu'il aurait pu l'utiliser pour lui? Oui, Judas l'a fait, il a utilisé l'argent pour lui, ça, il n'y a pas porté chance. Il était honnête. Mais l'honnêteté, ça ne suffit pas. Et de discuter, ça ne va pas. Parce qu'avec moi, vous pouvez discuter et me trouver les excuses que vous voulez. Je vous dis, moi, j'écoute. Je ne suis pas responsable de ça. Moi, je suis responsable de ce que je suis en train de faire, là, maintenant. Soyez honnête. Mais faites valoir le talent que Dieu vous a donné. Et ne discutez pas, même si vous êtes calé pour discuter. C'est pas ça qui m'intéresse et qui intéresse le Seigneur. Que vous disiez, mais moi, tu sais, tu comprends, Seigneur, je sais ou je sais pas. Écoutez-moi, ça va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Et je reviens à vos enfants, mes frères et sœurs. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un enfant. Je vous l'ai dit, je crois que Dieu l'a permis. Je vous l'ai dit qu'il y a 10 mois en arrière, il y a un gosse de 10 ans. Il est venu là-devant. Il avait été touché par une prédication pendant un culte. Un gosse de 10 ans qui me dit, Monsieur Gault, je peux vous parler? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, Monsieur Gault, j'ai jamais assisté à une réunion d'évangélisation. Mes parents ne m'ont jamais amené à une réunion d'évangélisation. Ben, je dis, t'as pas de bol, je dis. Quand même. Alors vous allez me dire, on ne peut pas, je ne crois pas, frères et sœurs, soyons sérieux. Moi, je pense qu'on peut. Ces enfants, je ne sais pas, moi, mes enfants, c'est... Mes enfants, c'est mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Mes frères et sœurs, je vous dis, si dans l'église, on commençait à s'occuper de nos enfants, parce qu'il y en a des fois, Monsieur Gourget, j'aimerais être un ancien à l'église. Est-ce que c'est bien de vouloir être un ancien à l'église? Est-ce que c'est bien de vouloir d'aspirer à la charge d'ancien? Est-ce que c'est biblique? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une... Oui, c'est bien. Mais peut-être qu'avant d'être fidèle dans les grandes choses, il faudrait peut-être que je commence à penser à être fidèle dans les petites choses. C'est bien de rêver et de dire quand j'aurai si Dieu me confie de grandes choses, c'est clair, je serai fidèle. Mais il vaut mieux être fidèle dans les petites choses aujourd'hui que penser qu'on va être fidèle dans les grandes choses demain. Et peut-être qu'avant de m'occuper peut-être d'un poste à responsabilité dans l'église, je pourrais peut-être commencer à m'occuper de mon épouse, de mon mari, et prendre soin de lui. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le servir? Je termine. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de servir Dieu? Alors là, il y a la paresse. La paresse. Il y a des gens paresseux. Je parlais tout à l'heure de ceux qui vont du jogging. Et c'est... Moi, je trouve ça formidable. Des gens qui sont capables de courir des heures. Moi, j'aimerais. Ils ont des forces physiques. Je parle bien de forces physiques. Et c'est... Moi, je les admire. Franchement, je trouve que c'est bien. mais ils n'ont pas de force pour prier, par exemple. C'est révélateur d'un déséquilibre spirituel, bien sûr. Il faudrait avoir les deux. Des forces pour courir et des forces pour prier. Si vous n'avez pas de force pour prier, bien, humiliez-vous. On va prendre la Sainte-Seine. C'est, tu vois, tu me donnes des forces pour faire ci, parce que j'aime la couture, c'est pas moi. J'aime la cuisine, je m'achète des livres de recettes. J'aime découvrir de nouvelles. Mais c'est bien, c'est très bien tout ça. Quand c'est sain et saïen, c'est bien. Et j'ai pas de force pour te servir. Seigneur, j'ai besoin d'une victoire. Oui, la paresse, la négligence, les vierges folles, il y en a 5 qui vont partir. Il y en a 5/10 qui vont rester chrétiens. Ça, c'est une prophétie. Ça ne veut pas dire que dans chaque église, Dieu va, il y a un quota de 50. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais dans le royaume de Dieu en général, il y a 1 chrétien sur 2 qui n'est pas prêt. C'est sûr, sûr, c'est pas moi qui le dis. Vous l'acceptez ou ne l'acceptez pas, ce n'est pas grave. Mais je vous dis que ça se passera comme ça. La négligence, l'assoupissement. Puis après, il y a aussi, j'ai pensé hier au manque de paix. Quand on perd la paix, vous avez déjà perdu la paix? Répondez-moi, est-ce que vous avez déjà perdu la paix? Oui, moi je sais ce que c'est de la perdre. C'est un truc de fou, ça. Quand vous perdez la paix, vous êtes attrapé avec quelqu'un, et si vous ne le réglez pas de suite, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça c'est le diable, quand il voit une porte ouverte, laissez-moi vite, qu'il va, il ne prend pas 2 jours pour s'engouffrer. L'absence de paix, ça c'est un truc terrible, ça. Je pense que les 3/4 des rétrogrades le sont parce qu'ils ont perdu la paix, ils n'ont pas poursuivi la paix. Alors il y a d'autres explications, si on faisait un carrefour avec les anciens ou à la réunion des frères, on le fera. La timidité, est-ce que ça peut arriver la timidité? Quand Paul dit à Timothée, qu'est-ce qu'il lui dit? Ranime le don que tu as reçu. Ranime car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il avait dû se faire avoir peut-être avec des anciens. Est-ce que ça peut arriver des fois dans une église de s'attraper avec des anciens? Je ne sais pas, c'était un jeune pasteur, peut-être que les anciens lui avaient dit, je ne sais pas, j'en sais rien, moi je calcule. Timothée? Ranime le don. Ça pourrait être le titre de la prédication, c'est pas celui-là. Hein. Ça pourrait être le titre de la prédication. Ça pourrait être, moi qu'est-ce que j'ai mis comme titre? J'ai mis « Remettez-vous à l'œuvre avec courage ». Voilà le titre de ma prédication. Remettez-vous à l'œuvre. Faites pas 36 000 trucs. Mais dites, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et ne vous irritez pas si vous faites le ménage, si vous vous retrouvez à un, parce que Dieu va le permettre. Moi, je me souviens dimanche après-midi, c'était ici, il y avait des jouets partout. Le soir, j'étais fatigué. Et puis, je dis quand même, les parents, ils pourraient faire ranger les jouets à leurs gosses. Et puis, il y a un verset de l'Écriture qui m'est venu. Là où il n'y a pas de bœuf, la crèche est propre. Et j'ai dit, c'est clair que je préfère qu'il y ait des jouets quand même. Parce que s'il y a des jouets, c'est qu'il y a des gosses. Oui ou non? Mais c'est vrai. Dans une étable, s'il n'y a pas de bœuf, c'est toujours propre. Et dans l'école du dimanche, moi je préfère avoir de temps en temps un truc sur les murs. Bon, c'est pas ça que. Mais je préfère avoir un truc cassé et qu'on ait plein de gosses qui viennent. Mes frères et sœurs, reprenez courage. Reprenez courage. Moi je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Vous le croyez? Je veux pas vous mettre sous la contrainte. Ça me ferait mal au cœur si quelqu'un me dit. Enfin, je sais que c'est pas le cas, mais si c'était vrai, ça me ferait mal au cœur que quelqu'un me dise. Tu sais, tu forces les chrétiens à faire quelque chose. C'est franchement, ça me ferait mal au cœur si c'était vrai. Je veux pas vous forcer. Moi, j'ai pas à vous forcer. Moi, je vous encourage. Parce que quand vous passerez devant Dieu, vous recevrez soit la rétribution des justes, soit la rétribution des méchants. Alors, Dieu savait que vous viendriez ce matin. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir des frères. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce que vous pouvez répondre au Seigneur? Pas moi, moi ça ne me regarde pas en vérité. Même si je suis le pasteur, je pense que ça ne me regarde pas. D'ailleurs, ce qu'on va faire maintenant est quelque chose qui le stipule, puisque Paul dit « Éprouvez-vous vous-même ». Moi, je vais m'éprouver moi-même, parce que c'est bien de prêcher, mais c'est quand même mieux de faire ce qu'on dit. Alors, mon frère, ma sœur, nous allons comparaître devant le Seigneur, devant le tribunal du Seigneur. Mon frère, ma sœur, Peut-être qu'en ce moment-là, dans la Sainte-Seine, Dieu va te montrer, tiens, il faut que je m'occupe de mon conjoint. Il faut que je m'occupe de mes enfants, c'est vrai, au moins tiens, deux fois par mois. Je vais les amener à l'évangélisation. Je veux qu'ils entendent l'évangile. Et si vous me dites que les gosses, ils ne veulent pas venir, là, il y a un sérieux problème, vous pouvez vous mettre à genoux. Si un gosse de 10 ans vous dit « Maman, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller » et que vous ne réussissez pas à l'amener, là, je vous dis que vous êtes vraiment mal. Mes frères et sœurs, nous recevrons des récompenses. Même un verre d'eau. Même un verre d'eau. Un tout petit truc. Tout ce soir ou demain, vous téléphonerez peut-être à Madame Dupont. Dans 3 jours, vous aurez oublié. Mais Dieu n'aura jamais oublié. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on est dans l'église. Il y a des gens qui viennent, ils viennent en pensant qu'ils prennent le pain et le vin, ils prennent la prédication, ils prennent un peu de communion fraternelle. Ils s'imaginent qu'ils sont en communion avec Dieu. C'est le piège du diable, ça. Même si vous venez que le dimanche, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça c'est pas. Moi, ça m'affole pas. Le problème, il n'est pas la quantité de réunions à laquelle vous assistez. Le problème, il est beaucoup plus sévère que ça. Le problème, il est est-ce que je fais la volonté de Dieu ? Est-ce que je marche dans ses vastes desseins ? Alors je vais vous demander, mes frères et sœurs, vous qui prenez le pain et le vin, de vous lever avec joie. Vraiment avec joie de vous lever. Pour prendre ce pain et ce vin, que ça soit une victoire. Oui, reprenez courage. Reprenez courage pour faire l'œuvre de Dieu avec joie. Oui, si tu as qu'un quart d'heure, eh bien prends-le. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas un quart d'heure, bon là c'est de la mauvaise foi. Franchement, là, ne me dites pas que j'exagère. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas un quart d'heure, là aussi, il y a un truc qui ne va pas. Si moi, je vous dis que je n'ai pas du temps pour préparer mes prédications, vous allez dire, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Alors que ce moment tellement important de Sainte-Seine, ce moment de dire, voilà, Seigneur, je reprends du collier. Et Dieu va vous le montrer. Ce n'est pas possible qu'il ne vous le montre pas. Notre Père, que ce moment nous permette à tous de devenir plus que vainqueurs. Parce que de toute façon, nous le savons, c'est ta volonté. Que nous ayons cette joie lorsqu'on comparaîtra devant toi d'entendre, entre, bon et fidèle serviteur. Seigneur, qu'il en soit ainsi, pour tous les bien-aimés de cette Église, et pour tous ceux qui écouteront sur Internet ce message, qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Amen.